Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus, fréquence 106.6, radio sans publicité. Et tout de suite, il est 14h et nous allons passer à notre émission intersyndicale hebdomadaire, émission Derrière la vitrine. Alors aujourd'hui, on est quand même relativement nombreux, on a la présence parmi nous de la CGT, de la FSU pour les syndicats de personnel et de étudiants pour les syndicats d'étudiants. Comme d'habitude, hein, traditionnellement, on va faire un petit tour de table. Moi, c'est Yvain pour sud étudiant.
Philippe pour sud étudiant aussi.
Moussa donc pour la FSU.
Et Benoît pour la CGT.
Et ben c'est parfait. Et tout de suite, bon alors comme d'habitude, on va essayer d'un petit peu de dégrossir tout ce qui est actualité du mouvement social, qui est relativement florissante, et notamment par rapport à la répression du mouvement social. Hier est tombé un jugement pour les salariés de l'usine Goodyear qui étaient condamnés à la fermeture. Ces salariés n'ayant pas... ayant effectué une certaine résistance à la fermeture de leur usine, se sont vus condamnés par la justice à 24 mois de prison, dont 9 mois ferme. C'est arrivé pour 8 d'entre eux.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut, quand même légitimement s'interroger sur quel type de justice nous avons en France. On a vraiment, a priori, une justice qui est aux ordres, en fait, qui est une justice de classe. On pourrait peut-être même le dire ainsi.
Justice de classe, en effet.
Tout à fait, qui finalement, pour ces personnels, pour ces syndicalistes qui ont été condamnés, il faut le rappeler quand même, ce sont des hommes et des femmes qui se sont bagarrés justement pour maintenir leur outil de production, pour maintenir la cohésion de leur groupe et pour maintenir leur emploi. Et la vraie question, la première violence sociale, en fait, elle est là. Elle est dans la suppression des postes, elle est dans la fermeture des usines. Et nous assistons maintenant de plus en plus, comme on l'a vu d'ailleurs chez Air France, plus récemment chez Air France, où des syndicalistes aussi avaient pris à partie la direction d'Air France sur des sujets sensibles tels que les restructurations, etc. Et maintenant, on constate que finalement, le gouvernement, en fait, parce que là, il s'agit quand même d'une décision, à notre sens, politique, c'est une décision politique qui a été prise, qui est de condamner ces syndicalistes, malgré que, parce qu'il faut quand même le souligner, soi-disant les parties prenantes de ceux qui avaient porté plainte au départ contre la séquestration qui a été effectuée par les personnels de Goodyear, qui avaient porté plainte, ont tous retiré leur plainte. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de plainte. C'est le parquet qui a poursuivi, en fait, hein, et qui a finalement notifié et qui a condamné. Donc voilà. C'est là où on peut dire que c'est une décision politique, et c'est là où il faut effectivement qu'il y a quand même une certaine indignation. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, il y a une pétition qui circule actuellement. Je pense qu'il va falloir faire plus qu'une pétition pour soutenir ces syndicalistes, ces combattants finalement. Hein, et donc, je vous invite tous éventuellement à la signer, bien sûr. Je pense qu'on la trouve assez facilement. Il suffit de taper les 8 de Goodyear et puis vous trouvez la pétition sur le site change.org.
Elle a été lancée par la CGT d'Amiens, si je m'abuse.
Tout à fait, oui, c'est ça. Voilà. Donc il y aura certainement des actions et je pense que là, il faudra quand même essayer de se bouger par rapport à cette question-là, parce que là, c'est vraiment, on voit poindre vraiment de plus en plus une justice de classe qui, finalement, sur des cas de vol, de détournement de millions, ne fait pas grand-chose. Hein. On peut penser, par exemple, au ministre Cahuzac. On ne sait pas où on est, son affaire, finalement. Hein. Et ça met du temps à se mettre en place. Des Cahuzac, des tapis, enfin, et j'en passe, et qu'on sort. Et il en voit actuellement, maintenant, donc, cette justice qui se met aux ordres et qui, de plus en plus, sanctionne, finalement, ceux qui se battent contre l'exploitation, ceux qui se battent contre la misère, contre la précarité, etc.
Et ces syndicalistes sont condamnés, alors même que, je regardais ce matin, dans les promesses de campagne de François Hollande aux salariés de Florange, il avait réitéré une fois de plus la défense du droit syndical et tout, et là on voit que quelques années après, c'est des mois de prison pour les syndicalistes.
Tout à fait. Ça s'accompagne également, on peut peut-être le souligner également, sur la réflexion, soi-disant, une réflexion dans un sens unique sur la refonte de ce qu'on appelle le code du travail, celui qui protège les salariés, bien sûr. Et actuellement, donc, on dit que le code du travail en France est trop compliqué, en fait.
Alors, pour rappel, effectivement, François Hollande et Emmanuel Valls sont prévus de supprimer près de 1000 articles du code du travail, c'est quand même pas rien.
1000 articles qui en fait on sait que de toute façon le code du travail a été complexifié du fait même d'introduire de ce qu'on appelle des dérogations, etc. Bon, je pense que il y a peut-être effectivement à y voir un peu plus clair dedans, mais veillez à ce que dans les 1000 articles qui vont être supprimés, bah, la sauvegarde en fait du droit des salariés soit maintenue dans ce code du travail.
Par rapport au code du travail, moi j'invite tous les auditeurs à suivre un petit peu l'actualité de Gérard Filoche. C'est quelqu'un qui a été inspecteur du travail, qui connaît le code du travail, qui sait vous expliquer que tout ce qu'on vous raconte sur le code du travail, ou la plus grosse partie de ce qu'on vous raconte sur le code du travail, c'est du flan. Quand Pujadas sort le code du travail en disant on n'a jamais vu ça, il y a 3000 pages, non, il n'y a pas 3000 pages. Il vous l'explique, il y a 600 pages dans le code du travail, c'est le plus petit code qui existe au niveau législatif, c'est le plus petit code qui existe en France. Donc je veux bien, mais voilà, c'est le plus petit code et ça régit quand même le travail de dizaines de millions de personnes dans ce pays. Il faut rester sérieux. Après, pour revenir un petit peu à Goudière, voilà, pourquoi une justice de classe? Pourquoi on dit ça? Parce que évidemment, enfin non pas évidemment, mais là on note que les employés sont punis d'une peine de prison et les patrons voyous qui ont été condamnés aussi pour la fermeture de cette usine, mais ils ont été condamnés à quelques millions d'amende. Pas de prison, évidemment, une amende de quelques millions pour une entreprise qui fait des milliards de bénéfices. Voilà, il faut. Il n'y a pas de mesure là. Il n'y a pas de mesure. Et une dernière chose, c'est en septembre dernier, la CGT avait appelé à la défense, avant même les histoires d'Air France, avant même les histoires de Goodyear, la CGT avait appelé à manifester contre la criminalisation du mouvement social. Et c'est important et j'espère que c'est une lutte. Enfin, c'est pas que j'espère, c'est que visiblement c'est une lutte qui est amenée à s'amplifier et j'invite tout le monde à participer aux mouvements qui auront lieu là-dessus en fait.
Oui, effectivement, c'est quand même pas rien quand on parle de criminalisation du mouvement social. C'est pas anodin du tout, et ce d'autant plus quand on est sous l'état d'urgence qui finalement sert vraiment de prétexte au gouvernement pour faire passer des lois complètement liberticides et complètement antisociales en fait, alors qu'ils ne s'appuient pas du tout juridiquement sur l'état d'urgence. C'est juste une sorte de prétexte médiatique, mais comme on l'a dit en septembre, la CGT a appelé à manifester contre ça. Ça prouve que c'est un mouvement de longue date en fait, ce mouvement de criminalisation. On pensait aussi aux ex-salariés de Continental qui ont aussi dû subir une énorme répression de la part du gouvernement.
Tout à fait. Donc on voit que de toute façon sur cette question du répression du mouvement social, de la criminalisation du mouvement social, c'est une situation qui s'est dégradée depuis les années 90. Donc on voit que les gouvernements successifs ont tous essayé progressivement de mettre en place un système justement qui finalement c'est l'épée de Damoclès qui pèse sur finalement, qui est suspendu au-dessus des têtes de tout celui qui voudrait éventuellement, se battre contre l'ordre établi en fait. L'ordre social, j'entends, bien sûr.
Oui, parce que oui, ça concerne. Ça, en fait, l'objectif de cette sanction, c'est quand même de faire peur à tous ceux qui oseraient un petit peu lever la main en disant là, il y a un problème en fait. Est-ce qu'on cherche à faire peur au monde du travail qui oserait se lever un petit peu contre l'ordre
social établi qu'on veut établir.
Effectivement.
Voilà. En fait, c'est quand même quelque chose de grave qu'on arrive à un point où le mouvement syndical est criminalisé comme tel en fait, parce que les actions qu'on avait perpétrées. Les camarades de Goodyear, elles sont éminemment syndicales. Enfin, je veux dire, c'était pour la défense de leur emploi, c'était pour la défense de leur usine. C'est quand même pas rien, quoi. Y a des milliers de vies qui sont en jeu. Leur vie, celle de leur famille, celle de leur commune, tout bêtement, en fait. Et quand un mouvement de défense de ces droits-là, de ces acquis-là, on arrive à la prison, c'est on arrive à un état qui diverge peu à peu de l'état de droit.
Et c'est aussi, il faut pas rappeler que c'est quand même une action plus ou moins symbolique qui a été menée par les Goodyear à ce moment-là. Bon, il y a eu les deux personnes plaignantes au départ, donc on le rappelle, qui ont retiré leur plainte, ont été séquestrées pendant 30 heures. Elles n'ont pas été menacées de violence, elles n'ont pas... Voilà, et au contraire, les syndicats ont tout fait pour apaiser les choses entre les salariés de l'usine et les...
Et la direction de Goodyear.
Voilà, et les cadres de Goodyear. Donc voilà, il faut pas non plus exagérer les choses. Il n'y a pas eu de menaces vitales. Voilà, on a vu des sanctions bien moins lourdes pour bien pire que ça, en fait.
Bah oui... Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, toutes ces affaires politiques de financement, de partis et ce genre de choses, bon, qui finalement n'ont jamais été sanctionnées. Quand on regarde par rapport aux dégâts occasionnés par une fermeture d'usine, bon, lorsqu'on a 1 800 à 2 000 salariés qui du jour au lendemain se retrouvent sans emploi, dans la précarité, etc., avec des familles à faire vivre, où est la violence ? La violence n'était-elle pas là, justement là, lorsqu'on prive les gens d'emploi.
Effectivement.
Et on fait une petite pause peut-être.
Une petite pause musicale, oui. Avec Clarica. Voilà, c'est pour c'est pour tous les migrants. Ça s'appelle Tu l'as bien mérité.
Bien mérité. Si la terre est aride, y a qu'à
Vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6, l'émission Derrière la vitrine, l'émission intersyndicale de Radio Campus, et on peut en profiter pour saluer plusieurs de nos camarades qui viennent juste d'arriver dans le studio.
Bonjour.
Alors, qui es-tu ?
On va se présenter. Et qui es-tu ?
Alors, Aurélien, Sud Solidaire étudiant.
Salut, moi c'est Salomé, toujours pour Sud Solidaire étudiant.
Et moi c'est Charlotte, et aussi pour Sud Solidaire étudiant.
On est envoyé par Sud
Solidaire étudiant. On appelle ça une invasion, effectivement.
Eh bien, on ne peut que s'en féliciter parce que ça prouve que le mouvement syndical se porte bien et surtout qu'il a fini ses partiels et qu'on peut donc se retrouver nombreux et nombreuses.
Surtout chez les jeunes.
Voilà,
c'est ça. Sud Solidaire étudiant se félicite de l'arrivée de Sud Solidaire.
C'est la moindre des choses. Alors, nous parlions à l'instant même de la criminalisation du mouvement social. On peut en profiter pour parler d'un autre sujet d'actualité qui est... projet de construction d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, qui est une commune près de l'agglomération nantaise. Un aéroport, faut-il le rappeler, qui est prévu comme étant très coûteux et assez désastreux pour l'environnement, en plus de s'installer sur des terres d'agriculteurs qui, fort heureusement pour eux d'ailleurs, n'ont pas le moins du monde prévu de déménager pour laisser la place à du béton, à des avions, à des dizaines de passagers internationaux, dont la plupart, bien sûr, seront là pour... Les aéroports, c'est quand même un haut capital social et un haut capital économique qui fréquente ce genre d'aéroport, quoi. Donc, il y a eu...
Et dont l'utilité de l'aéroport est relativement remise en cause, puisqu'il y a un certain nombre d'études locales qui montrent qu'il y a déjà un aéroport à Nantes.
Qui n'est pas encore totalement utilisé, d'ailleurs, le dit aéroport.
Et,
donc c'est ridicule.
Voilà, et dans lequel il y a encore de la place... pour accroître le trafic, donc on n'a absolument pas besoin de ce second aéroport avec toutes les conséquences, notamment écologiques, dont a parlé Yvan.
C'est cela. Donc, évidemment, au début janvier, nous sommes au lendemain des régionales, donc les collectivités locales se félicitent. On va pouvoir commencer à pratiquer des expulsions, les expulsions d'agriculteurs qui sont présentes sur la zone à défendre, puisque les agriculteurs se sont organisés pour ne pas se laisser faire. Leurs procès ont débuté hier à Nantes et il y a eu de nombreuses protestations à Nantes par rapport à ça, notamment dimanche où le périphérique a été bloqué pendant plus de 12 heures par des activistes, mais aussi hier matin, avant-hier, sur le périphérique où une opération escargot a eu lieu pour bloquer. Ça a été l'occasion d'une grosse répression également, puisque pas moins de 19 personnes sont passées en garde à vue. Et vont maintenant comparaître, bien entendu, sur, le 24 février, et à risque au moins 2 mois de prison. Et
deux ans, pardon.
Ouais. J'ai plus mes chiffres sous les yeux, ça m'est embêtant. 2 ans de prison et 1500 euros d'amende, ce qui est quand même pas rien.
Et militants qui, en plus, se sont fait confisquer l'ensemble de leur voiture et de leur matériel qu'ils avaient à ce moment-là, et du coup, qui se retrouvent au moins jusqu'au jugement... sans voiture et qui vraisemblablement vont être obligés de payer les frais de parking.
Je crois que c'est quelque chose comme une trentaine ou une quarantaine de tracteurs qui ont été confisqués.
Oui, parce que faut-il le rappeler, c'est quand même les agriculteurs qui sont venus justement sur le périphérique pour faire valoir leurs droits à ne pas être expulsés, à pouvoir cultiver leurs terres de leur côté sans qu'on leur demande de foutre le camp pour laisser place à un aéroport. En fait.
Et par rapport aux aéroports, moi je vais sortir un petit peu de Notre-Dame-des-Landes. Je vais retourner sur Paris, Roissy-Paris, tout le monde sait que bon, c'est un peu la galère en transport. Et donc ils ont prévu de faire un truc magnifique sur laquelle la CGT a communiqué dernièrement. Et en fait, ils ont prévu de faire une navette ferroviaire ultra rapide. Comme ça, les hommes d'affaires sont en 10 minutes dans le centre de Paris. C'est merveilleux. C'est merveilleux, mais on oublie tout de suite que les salariés qui sont contraints d'habiter en lointaine banlieue parce que les loyers parisiens coûtent la blinde, eh ben on oublie que eux ils prennent le RERB. Donc on va commencer à faire des travaux qui vont coûter des millions et des pour le moins des centaines de millions on va commencer à faire ces travaux-là, alors que le RERB est pourri et qu'il faudrait peut-être commencer par faire des travaux à cet endroit-là. Je remets ça sur le contexte de Notre-Dame-des-Landes parce que c'est aussi où est-ce qu'on met la priorité dans l'économie du pays et la priorité sur les aéroports, c'est quand même quelque chose qui est un peu anachronique. Et,
ça rentre dans la même logique que les bus Macron, hein, je veux dire, ça rentre un peu dans la même logique. C'est pas une logique finalement de type développement social, mais c'est une logique de gain financier, parce qu'au final, le transport, la SNCF sait faire. Ce qui ne va pas, c'est les coûts, les prix. Et donc, quelque part, on sent bien que quelque chose est en train de se mettre en place dans ce pays, des transports pour les riches et des transports pour les pauvres. Les pauvres prennent le bus, hein, parce qu'ils ont plus de temps finalement à perdre dans les transports que ceux qui sont pressés, évidemment, parce que, bon, il y a, comme disent les Anglais, time is money, donc l'argent, dès qu'il il faut pas qu'ils perdent de temps. Et donc, là-dessus aussi, on veut dire que dans la loi Macron, cet aspect libéralisation des transports fait que, bon, ben voilà, maintenant. C'est vrai qu'on déroge, on dérive un petit peu, mais c'est important de souligner que finalement ça rentre quand même tout ça dans un même tout se tient en final dans une logique qui est une logique complètement c'est au-dessus du libéralisme maintenant, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, capitalistique ou capitaliste. La logique capitaliste, elle est là, et donc la logique, c'est de faire du profit par tous les moyens. Et donc ces bus Macron, moi ça m'avait vraiment titillé, parce que je voyais interviewer des gens, pourquoi vous prenez le bus, les mecs ils vont pas dire on prend le bus parce qu'on aime bien prendre le bus, hein. Ils disent ça coûte pas cher, voilà, en fait la raison essentielle c'est que ça coûte pas cher, voilà.
Surtout qu'ils aiment les autoroutes,
non, mais en plus on nous parle en plus de comment on appelle ça, ce qu'ils appellent comment ils appellent ça, la transition écologique, etc. Je veux dire, sincèrement, multiplier le nombre de bus, je sais pas si ça fait la transition écologique,
hein. Mais ça rentre aussi dans la logique du Grand Paris, ça fait longtemps qu'ils ont prévu de faire des trucs comme ça. Enfin, on a grandi la ligne 14, on va créer une 15e ligne de métro également pour desservir moins desservir la ligne 13, etc. Et à côté de ça, il y a encore des départements comme le 93 qui sont complètement ghettoisés car ils ne peuvent pas justement circuler comme bon leur semble. Il n'y a pas de métro, il doit y avoir un RER tout pourri et quelques bus, quoi.
Il y a un excellent documentaire sur la desserte de Clichy-sous-Bois par le tramway qui a été diffusé et qui sera sans doute rediffusé, parce que c'est des spécialistes de la rediffusion, sur Public Sénat. Et c'est assez impressionnant, en fait, de voir toutes les communes autour qui ne veulent pas voir la population de Clichy-sous-Bois traverser leur propre commune. C'est assez effarant. En fait,
il n'y a pas de doute, on investit là où on sait que ça peut rapporter de l'argent et là où ça a un intérêt autre que forcément celui de l'intérêt général et des populations qui peuvent y vivre. Et parce que voilà, ça intéresse personne que ces gens puissent se déplacer, parce que ils considèrent que les retombées économiques seront pas les bonnes et que mieux vaut moderniser des structures où des gens peuvent déjà se déplacer, parce que ces gens-là pourront payer plus cher et pourront leur apporter plus d'argent.
Effectivement. On tape sur un autre sujet ou on passe une pause musique,
Petite précision juste avant. Pour revenir sur la question de l'état d'urgence, de la criminalisation du mouvement social, etc. Il y a une manifestation qui est en train de s'organiser. Alors, il devrait y avoir un mouvement théoriquement national le 30 janvier. Il y a une manifestation qui doit partir alors à 14h, je crois, de la place de la République à Paris le 30 janvier. Il y a la même chose plus ou moins à Grenoble. Et il est appelé par le collectif qui l'organise à mettre en place des manifestations partout en France le 30 janvier.
À cet égard, nous ne manquerons pas de vous prévenir s'il se met en place quelque chose de similaire à Lille, bien sûr. Et nous serons en partie prenante et nous vous appelons à rejoindre ces manifestations, le cas échéant, contre tous les débordements et de criminalisation du mouvement social dont on vous a parlé au cours de l'émission.
Voilà. Défendons nos libertés syndicales et politiques.
Place de la République, je voulais juste te dire, moi je participe comme manif où il y a Johnny. Et donc, pour lui rendre hommage, on va écouter...
Non.
On va écouter les Wriggles avec CRS.
Et ça stresse, Dans le camion de CRS,
ça se confesse.
Et quand ça dépresse, ça se laisse aller à des caresses. Ça serre les fesses et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse. Et quand ça dépresse, ça se laisse aller à des caresses. Caresses, 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 caresses. Notre vie n'est pas que baston, mais c'est vrai qu'on aime ça. Toute la journée dans le camion, après on tape dans le tas.
Sous couvert d'entraînement,
à la guérilla urbaine, même nos sous-vêtements
sentent la lacrymogène.
Plié matraque, le casque à la bandoulière,
les menottes, le masque et les genouillères.
On a un bon salaire, fonctionnaire de l'État, prêt à défoncer notre mère, c'est marqué dans le contrat.
On est souvent sur la route, on se croirait en tournée,
à bouffer des casse-croûtes, défrayer, nous y loger.
On est dans une compagnie, comme des intermittents, c'est ce qui nous fait marrer.
Si c'est quand on leur rentre dedans, mais aujourd'hui l'heure n'est pas à la rigolade. On a tous peur, certains d'entre nous sont malades. On ne veut pas sortir, pourvu que le préfet ne nous fasse pas intervenir en fuite, s'il vous plaît. Ça serre les fesses et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse quand ça dépresse. Ça se laisse aller à des caresses.
On peut faire largement les manifs de lycéens.
C'est touchant, récréatif, de frapper sur des gamins.
Les étudiants c'est rigolo, surtout les anarchistes. On a des canons à eau pour les altermondialistes. Les infirmières, les sans-papiers, les profs, les supporters sont tous bourrés. La banlieue c'est différent, on connaît pas bien le terrain. D'accord c'est des enfants mais c'est aussi des gros bourrins.
Ça commence par une bavure,
ça fait cramer des voitures,
cachées dans les escaliers,
ça caillasse les pompiers.
Ils attaquent le commissariat,
font le choucra des médias,
toute la nuit dans la zup,
ça nous fait des sorciers.
On peut compter sur les discours de nos supérieurs hiérarchiques,
les appels au secours de l'opinion publique. Mais aujourd'hui l'heure n'est pas à la rationale. On a tous peur, certains d'entre nous sont malades. On ne veut pas sortir, pourvu que le préfet ne nous fasse pas intervenir. En fuite s'il vous plaît. Ça serre les fesses et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse et quand ça dépresse, ça se laisse aller à des caresses. Ça serre les fesses et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse et quand ça dépresse, ça se laisse aller à des caresses, 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 caresses.
Famille à souder des barres de fer pour fortifier des grilles. Paraît qu'ils sont plus de 500 à occuper l'usine, à nous attendre patiemment armés de parabines, de mouches, de pioches, de boulons et de produits chimiques. Des camions qui déchargent des blocs de béton sur des fenouilles. C'est l'histoire classique d'une boîte qui délocalise, d'une entreprise publique qui se privatise, d'une multinationale qui invente la crise et l'intersyndicale
qui se radicalise. La conviction du prolo qui vient de perdre son boulot, sachant qu'à la base un métallo c'est costaud. Allô maman bobo, allô maman bobo. La conviction du prolo qui vient de perdre son boulot, sachant qu'à la base un métallo c'est costaud. Allô maman bobo, allô maman bobo. Mais aujourd'hui l'heure n'est pas à la rigolade. On a tous peur, certains d'entre nous sont malades. On ne veut pas sortir, pourvu que le préfet ne nous fasse pas intervenir. En pitié s'il vous plaît. Ça serre les fesses et ça stresse. Dans le camion de CRS, ça se confesse et quand ça dépresse, ça se laisse aller à des caresses, 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 caresses.
Alors vous êtes toujours sur Radio Campus au 106.6 et vous écoutez donc toujours l'émission intersyndicale Derrière la vitrine. Donc maintenant on vous propose d'embrayer sur un sujet toujours de manifestation en manifestation, donc sur la manifestation qu'il y a eu hier à propos donc de la mort d'Abdallah Al-Anfani, qui est donc mort de faim dans sa résidence universitaire à Galois. Donc c'était donc une manifestation proposée, enfin... organisée par la FERUL, donc, qui est une association qui milite au sein des cités universitaires, donc pour plus de budget et pour une amélioration des conditions de vie dans ces cités U. Donc on va peut-être revenir là-dessus. Donc on était environ, il y avait donc une centaine d'étudiants réunis lors de cette manifestation pour protester, donc déjà pour marquer leur désaccord face aux conditions de vie dans ces cités universitaires qui sont de plus en plus désastreuses, mais aussi pour crier le fait que nous n'oublierons pas donc la mort de cet étudiant, donc qui, je le rappelle, était mort de faim et d'isolement également dans sa cité U, et dont le corps a été retrouvé 2 mois après sa mort. Donc c'est une anecdote, enfin c'est un fait divers très terrible qui nous montre à quel point l'isolement des étudiants est dévastateur et à quel point nos conditions de vie sont précaires.
Alors les étudiants, ils ont notamment protesté contre le manque de foyers dans les résidences universitaires, ce qui pousse les étudiants un peu à se replier sur leur chambre de 9 mètres carrés et donc à avoir très peu de contact entre eux, et c'est ce qui conduit à ce genre de drame.
Oui, tout à fait.
C'est le cas de dire aussi que quand on dénonce l'austérité tout au quotidien et de dire que il faut mettre de l'argent dans les cités U pour qu'elles soient correctes, que les étudiants puissent y vivre dans des conditions décentes avec des foyers, et que ce soit pas qu'il y ait un peu plus que un toit pour dormir, qu'il y ait un toit qui soit à peu près correct parce qu'ils y passent. Parce qu'on y passe notre année, c'est que derrière ça a des impacts qui sont énormes. Et enfin, en arriver à ce point-là et à ce niveau de gravité-là pour peut-être qu'un jour on soit entendu, c'est quand même très très malheureux. Et encore, même après cet événement-là, on n'a pas entendu de réaction si forte que ça et de changement.
J'avais une question, vous étiez à la manif hier en fait, c'est bien ça. Qu'est-ce qui explique le fait que, finalement, pour un événement aussi grave, c'est dramatique en fait, il y ait si peu de jeunes qui se sont mobilisés par rapport à cette question, parce que ça paraît quand même... Parce que dans les résidences universitaires, je ne sais pas combien de... Ici, au moins déjà sur le campus, il y a 3 ou 4 résidences universitaires. Il y a Bachelard, il y a
Galois,
Boucher, ouais, ça. Donc,
plus quelques résidences privées comme Gustave Eiffel ou Léonard de Vinci.
C'est ça.
Ça porte à...
Faux réflexe.
Ouais, en effet.
Alors, moi je vois deux explications. Déjà, il y a le fait que tous les étudiants ont leurs propres problèmes, qu'ils n'ont pas forcément eu accès assez à l'information, ou qu'ils avaient autre chose à faire et tout. Notamment les étudiants qui vivent en résidence universitaire, c'est tous des boursiers, je crois. Donc c'est eux-mêmes
c'est prioritaire pour les boursiers.
Voilà, c'est prioritaire pour les boursiers, donc c'est composé en majorité de boursiers. C'est eux-mêmes les étudiants qui ont le plus de difficultés au niveau financier. Donc il y a ça, la plupart d'entre eux se salarient. Et il y a aussi un autre aspect qui est moins glorieux, c'est que c'est le genre de propos que j'ai entendu à la manifestation. Il y avait un étudiant qui était là et qui me disait qu'il avait essayé de faire venir des gens de sa résidence, et il y en avait un qui lui avait répondu « Ah mais je suis pas concerné ».
Mais je pense que c'est ça aussi, c'est que le Crous a fait des CTU, des espèces de dortoirs immenses qui ne sont pas des foyers de vie, qui ne sont pas des endroits de rencontre, des endroits de partage, des endroits de commun, qui sont juste des endroits où les étudiants vont dormir dans des 9 mètres carrés minables, ou parfois où il y a des graves problèmes d'insalubrité. Et ce qui manque, et c'est d'ailleurs une des grandes revendications de la Férule, c'est de créer du commun dans ce genre de lieu, des moments de partage, donc avec des foyers, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, ou des initiatives solidaires. Enfin, je sais qu'il y avait des centrales d'achat qui ont été organisées, par exemple, dans d'autres villes. Enfin, et c'est ça qui manque beaucoup. Et au final, on est les étudiants qui sont là-bas vont être plus retranchés sur leur propre individualisme, parce que justement, on ne va pas les pousser à partir à la rencontre des autres.
D'accord. Non, mais
ce qui empire la précarité, finalement.
C'est vrai que j'ai été étudiant dans le passé, bien sûr, mais j'ai vécu aussi en cité universitaire, mais je me souviens qu'effectivement, on avait des foyers. On avait, dans les cités, on avait un foyer. Il y avait même, par résidence, il y avait une association, un groupe de résidents qui était responsable, et puis il y avait de la communication. Les gens se connaissaient en général, on connaissait pratiquement tout. En tout cas, tous les gens qui habitaient à un étage donné se connaissaient. Enfin, on avait quand même des liens qui étaient relativement importants. C'est pour ça que j'étais vraiment surpris par cet événement-là. Donc, et je me disais, je me suis interrogé justement vraiment sur cette solitude de l'étudiant là, en CTU. Il faut vraiment faire quelque chose, dans ce sens-là. Quoi. Je pense que la Férule et les syndicats étudiants devraient, mais d'ailleurs même des syndicats de personnel, on est quand même concernés également, ce sont nos jeunes qui sont là. Il faut absolument essayer de faire quelque chose. Je pense qu'il faudra qu'on invite les gens de la Férule une fois à l'émission, et puis voir qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait s'organiser pour justement, pour ne pas qu'on oublie ce jeune qui est décédé de, enfin qui est mort de faim en fait. Hein. Je pense que ça me paraît très important.
Puis après, ça a changé depuis parce qu'il y a une nouvelle politique du Crous, c'est de faire des logements tout en un en fait, et du coup ils font plus des lieux où les étudiants se retrouvent. Et enfin moi j'ai vécu pas mal en cité universitaire, et en fait il est extrêmement fréquent de ne même pas connaître ses voisins de palier en fait, parce que personne se parle jamais, personne se croit jamais.
Nous on avait des douches communes, on avait des cuisines communes, donc du coup
ça existe
chose qui tend à disparaître pour
tous les nouveaux logements ne sont plus construits comme
ça. Tout à fait, j'ai bien compris, c'est tout est intégré, donc effectivement le confort, c'était en termes de confort peut-être que c'est mieux, mais en termes de sociabilité c'est finalement des cités dortoirs en fait.
C'est sûr que ça n'aide pas à sociabiliser ou à politiser le lieu. Enfin, comme disait Aurélien, ou je ne sais plus qui disait, moi j'en ai parlé hier à un étudiant qui m'a dit je ne me sens pas concerné. Ben non, justement, si tu ne te sens pas concerné, c'est que tu es isolé. Et si l'étudiant qui est retrouvé mort de faim, duquel personne n'avait trace pendant plusieurs semaines, son problème c'était aussi l'isolement. Donc quelque part, ça te concerne, et ça nous concerne tous individuellement. Mais si ça nous concerne tous, c'est donc collectivement, forcément.
Le problème majeur, c'est qu'on fait de cet événement un événement individuel qui concerne donc l'étudiant et sa famille et ses proches, et qu'on ne fait pas cet événement un événement qui est politique et qui découle de politiques.
Non, mais les choix qui ont été faits au niveau de la politique des Crous, hein, ça fait des années et des années que.
Non, mais on va invoquer la responsabilité individuelle. Finalement, si le gars il est mort tout seul dans sa chambre, c'est de sa responsabilité parce qu'il était isolé. Et puis finalement, on ne va pas chercher la responsabilité collective qui tend quand même à nous questionner sur qu'est-ce qu'on a fait collectivement pour empêcher ce genre de choses. Voilà, en fait, hein, ça a toujours un peu le même principe, hein, c'est de dire, on ramène à l'individu la responsabilité de manière à se déresponsabiliser collectivement, en fait.
Ouais, exactement. Et d'ailleurs, à ce sujet, ce samedi 16 janvier à 15h30 à la Maison des étudiants de Lille 1, il y aura un débat autour de la précarité pour faire suite à la mort d'Abdallah.
C'est ce samedi là, c'est ça ?
C'est ça.
C'est organisé par quel ? C'est les étudiants.
Alors c'est le collectif Afrique et l'Union des étudiants communistes qui organise ce temps de parole.
C'est ce samedi. Hein. C'est
ça, ouais, voilà, ça. Ce samedi à 15h30 à la maison des étudiants.
Ici à Lille 1.
À Lille 1.
Sur le campus. Très bien. On peut peut-être faire une petite pause si tu nous as préparé une musique chatoyante en lien avec l'actualité.
Ou non. Ou pas.
Viens chez moi, j'habite chez une copine.
Ouais, c'est pas mal.
Spécial pour filles en pleurs. Heureusement parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. J'emballe tout ce qui se présente, les cousines, les belles-sœurs. J'ai le démon du bas-ventre, mon métier c'est dragueur. Dès que je rencontre une frangine, je lui dis salut, ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Je glande un peu partout avec mon sac de couchage. Je suis dans tous les coups, foireux, tous les naufrages. J'ai des potes qui ont de l'argent, ben ils travaillent, c'est normal. Moi mon métier c'est feignant, hey mec, t'as pas 100 balles. J'ai des plans, des combines pour vivre comme un pacha. Hey, viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Chômeur, babysitter. Quand je pense que mes parents voulaient que je sois docteur. Parfois quand j'ai du blé, je flambe comme un malade. Pognon, je l'ai pas gagné, mais non, mon métier c'est minable. Waouh, super la routine, hey salut, ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Hey, viens chez moi, j'habite chez une copine. J'ai mon matelas dans ma cuisine. Alors tu viens si tu veux. Tranquille. Allez viens. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Allez, viens la frangine. Allez viens. Non? Bon. Ah bon, d'accord.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 à l'écoute de l'émission Derrière la vitrine, émission intersyndicale. Maintenant, on va parler du service civique à propos des récentes déclarations de François Hollande à ce sujet. Et je vais laisser la parole à Yvain de Sud Solidaire Étudiant.
Oui, tout à fait. Faut rappeler que pendant ses vœux de bonne année, Monsieur François Hollande avait annoncé vouloir généraliser le service civique pour la plupart des jeunes de 25 ans, en passant de 70 000 personnes qui sont actuellement en service civique à 350 000. Accompagné à cela, bien sûr, la création d'une sorte de livret citoyen qui est comme une sorte de... Comme on a un carnet de santé, vous voyez, on aurait notre carnet de citoyenneté afin de checker quels sont les bons engagements et ceux qui sont validés par le gouvernement. C'est sûr que nous, en tant que syndicalistes, dont on a vu que récemment que le syndicalisme, c'était un peu le mouton noir du gouvernement, on aura un petit peu peur de ce que ça va donner, vous voyez, cette validation du bon engagement par le
citoyen,
gouvernement.
Hein.
Faut quand même rappeler un petit mot sur le service civique d'un point de vue syndical, c'est que c'est quand même un emploi qui est particulièrement précaire, c'est pas du tout un emploi d'ailleurs, puisque c'est payé entre 573 et 680 euros par mois. Il n'y a pas du tout de cotisation, si ce n'est pour les cotisations retraite, mais il n'y en a pas par exemple pour la sécurité sociale. On n'a pas le droit de saisir les prud'hommes en cas de litige syndical avec son patron, bien entendu. Et bien sûr, rajoutons à cela le fait que le monde associatif qui emploie environ 90% des services civiques subit une sorte de baisse massive de ses subventions. Enfin, tout ça pour dire qu'on est assez mitigé par rapport à ça, par rapport à cette volonté du gouvernement de créer des sortes de citoyens modèles assez précarisés en fait. Et que nous, en tant que syndicat étudiant, on doit quand même rappeler que étudier, de notre point de vue, c'est pas juste un passe-temps, c'est pas juste un loisir, c'est un temps de formation, et en ça, on le considère comme travail, et en ça, notre ligne syndicale, c'est de considérer qu'il devrait être rémunéré grâce aux cotisations sociales et qu'on devrait pouvoir cotiser sur le temps de travail qu'on passe à l'université.
C'est-à-dire que tous les étudiants devraient bénéficier d'un salaire universel pour rémunérer justement le travail qu'ils fournissent, qui fait partie de leur formation et puis qui est aussi producteur de richesse pour toute notre société. C'est une valeur ajoutée à notre société, le fait que les jeunes
puissent se former,
étudient, gagnent des compétences, réfléchissent.
Non, mais d'autant plus que, bon, je vous rejoins là-dessus, effectivement, je pense que ce salaire des jeunes, dont on parle beaucoup, d'ailleurs, ça ne devrait même pas s'appeler salaire des jeunes, il devrait y avoir un salaire universel, quel que soit le statut, parce que, justement, ce qui est quand même, en fait, contradictoire dans toutes ces questions-là, c'est que, autant les adultes, les générations supérieures, là, parlent des jeunes en disant oui, il faut leur donner plus d'autonomie, etc. Mais plus le temps passe et plus les politiques font que les jeunes sont de moins en moins autonomes financièrement. Je veux dire, la première question de l'autonomie chez un jeune, c'est quand même la question des finances. Hein, pour qu'il puisse décrocher du foyer familial, du foyer de. Il ne s'agit pas évidemment de séparer les enfants des parents non plus, hein, c'est pas ça que je veux dire.
Non,
mais simplement
mais
qu'ils soient autonomes.
Fiscal, c'est intéressant par exemple.
En termes d'autonomie par rapport financière, bon, c'est important que le jeune se sente bien dans sa peau et qu'il puisse faire effectivement ses études ou poursuivre ses formations dans des conditions de vie qui soient acceptables, je veux dire.
Ouais, sans forcément avoir besoin de se salarier pour justement financer l'étude.
Tout à fait, parce qu'on voit bien sûr, vous connaissez bien, c'est bien sûr, j'imagine, beaucoup d'étudiants qui sont salariés, qui sont donc du coup. Qui sont à la course, quoi, finalement, entre leur job qui leur est utile pour financer leurs études, et en même temps, ils doivent poursuivre leurs études dans des conditions un peu dramatiques. D'ailleurs, souvent, les constats d'échec, c'est souvent là que ça se passe, c'est que, bon, ils n'arrivent pas à assumer les deux statuts en même temps, ce qui est normal. Je veux dire, on ne peut pas demander à personne de faire 150 000 choses en même temps.
C'est près de 50% des étudiants au niveau national qui sont obligés de se salarier et de
se salarier pendant l'année universitaire, parce que si on y ajoute ceux qui se salarient pendant les vacances, c'est à peu près 75%.
C'est ça.
Non, mais c'est d'autant plus intéressant actuellement, on arrive de moins en moins à dissocier le temps de formation, qui est le temps universitaire, et le temps
de travail,
le temps de travail avec la généralisation des stages, par exemple, en fait, ou les stages qui sont encore une fois une une sous-catégorie de travailleurs qui n'est bien sûr pas du tout protégée par le code du travail et bien sûr et avec un droit assez dérégulé. Par exemple, un stage en dessous de 2 mois n'est pas obligatoirement rémunéré.
Et dont on sait que les entreprises justement jouent avec la réglementation puisqu'ils sont censés payer les stagiaires à partir de 2 mois et que beaucoup font
un mois
en sorte
et demi maintenant d'ailleurs si je ne me trompe pas
et que beaucoup font en sorte d'arrêter le stage la veille
Surtout sur la question des stages en plus ce qui est scandaleux c'est que ce que je trouve scandaleux c'est que de plus en plus les jeunes ont des difficultés à trouver des stages des points de chute pour faire alors que ça fait partie de la formation donc quelque part
encore une fois parce que les entreprises ne jouent pas le jeu vous voyez
ouais tout à fait ouais mais bon je veux dire en même temps on voit que ces questions là sont relativement complexes et qu'il faut effectivement s'en saisir pour essayer d'avancer parce que effectivement toutes les propositions sincèrement on est vraiment dans une société qui ne pense plus du tout à ces jeunes quoi et puis après on se demande pourquoi on a des dérives dans certaines à mon sens là-dessus il y a quand même une grosse réflexion à avoir et comme le disait la jeunesse est quand même l'avenir et donc il me semble que il est important à un moment donné, de reprendre la réflexion autour de ces questions d'autonomie financière des jeunes et puis d'assurer parce que actuellement en fait on s'aperçoit que on voit à Lille ça s'est vu à un moment donné il y a une précarisation de la population estudiantine qui est énorme quoi des gens de plus en plus de jeunes vont au secours populaire pour pouvoir manger aller chercher des paniers etc
quoi. De plus en plus de personnes qui passent aussi à des permanences syndicales
Et c'est scandaleux
c'est
vraiment scandaleux quoi la situation des étudiants
quand on voit tout ça, en fait, rien qu'au niveau de l'université, moi je trouve ça dramatique d'avoir un président de la République qui est pour seul vœu pour la jeunesse de leur refiler un carnet de citoyenneté et de...
D'allonger la JAPD à une semaine.
Exactement. Mais oui, c'est navrant, c'est dérisoire, et en plus je ne vois pas quel vœu pour la jeunesse il doit avoir, c'est pas des vœux, c'est des actes qu'il faudrait avoir.
Lorsqu'il a été avant d'être élu, là, pendant sa campagne électorale, il a quand même fait pas mal de promesses en direction des jeunes. Et on voit que au final, c'est comme toutes les autres. Celle-là, elle est passée à la trappe, comme tout le reste d'ailleurs. Mais bon, voilà.
Comme tout le reste.
D'autant plus que non seulement c'est pas efficace pour les jeunes, mais qu'en plus c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'il permet des emplois qui vont être précaires et dont les premiers bénéficiaires sont absolument pas les jeunes. Enfin, c'est pas ceux qui vont retirer le plus de choses de ces contrats. Et là, c'est une généralisation massive puisqu'il dit qu'il veut faire passer ces services civiques de 70 000 personnes concernées à 350 000. Donc c'est...
Oui, tout à fait. Plus, on voit bien que là aussi, tout à l'heure, je parlais de justice de classe. Bon, je pense que là, clairement aussi, on a quand même à faire un système d'éducation qui j'ai pas parlé de classe parce que sinon je vais taper sur les doigts, mais au moins qui reproduit très largement les inégalités sociales de la société.
On voit bien ça, par exemple, avec les étudiants salariés, parce que on nous demande de plus en plus, donc comme on l'a dit, d'aller en stage pendant nos formations, de faire 6 mois de stage, de faire 2 mois de stage à la fin de l'année. Sauf que quand t'es obligé de te salarier pendant tes vacances pour subsister pendant l'année, ou quand t'es en emploi en parallèle à tes études, libérer du temps pour un stage qui en plus, à tous les coups, ne sera pas payé, forcément, c'est une complication en plus. Dans la poursuite d'études. Hein.
Qui potentiellement n'est même pas dans la ville où tu étudies aussi.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Je voulais
enchaîner peut-être. Il y a quelques points d'actualité peut-être. Moussa, tu voulais parler des élections à venir à Lille.
Ah oui, alors on change carrément de sujet.
Ah oui,
d'accord.
Oui,
effectivement. Donc, je pense que. Nos auditeurs intérieurs le savent certainement, mais les extérieurs ne savent peut-être pas. Donc, il y a un processus électoral qui se met en place pour renouveler en fait la direction de l'université de Lille. En fait,
il y a une échéance électorale assez importante et ce pour deux raisons. La première, effectivement, c'est qu'il va y avoir des élections présidentielles à l'université de Lille. Donc, la présidence, il y a quand même certains profs qui sont déjà en train de placer leur pion. De l'autre côté, c'est que c'est la dernière mandature d'un conseil d'administration et d'autres conseils centraux composés d'élus étudiants de l'université Lille 1 avant la fusion, avant la belle fusion de notre glorieuse université Lille 1, Lille 2.
La fusion nucléaire.
Ouais, c'est celle-là.
Non, mais effectivement, donc, ce que tu disais sur la. Il y a l'élection du président, mais cette élection du président, elle se fait a posteriori, après, donc, après l'élection des conseils. Au niveau de l'université, il y a trois conseils, hein, on connaît.
Et justement, c'est là que c'est intéressant, c'est que les membres du conseil d'administration votent pour le président et les listes qui se constituent pour la présidence ont tout intérêt à placer leur pion et à faire en sorte que. Qu'il y ait des élus étudiants qui soient à leur botte et qui ne soient pas du tout revendicatifs. Il y a deux ans, il y avait une liste qui s'appelait DPE, Dynamisme, Pluridisciplinarité, Engagement, qui avait été montée exclusivement par des profs, en fait.
Oui, oui, oui. Mais ce qu'il faut noter quand même, c'est que donc, on va se retrouver encore une fois face à une bataille entre deux personnes, en fait. Donc ça va être encore une fois ridicule. La dernière fois, on avait la liste qu'on avait appelée la liste Relais, on avait la liste appelée liste Charour. Et au final, pendant la première année, ils ont essayé de se tirer un peu dans les pattes. Et depuis, en conseil d'administration, ils votent tout ensemble. Donc c'est un peu ridicule. C'est un peu une bataille de personnes.
Oui, ouais, mais ce que tu oublies de préciser, c'est que nous, au niveau syndicat, on a quand même une liste aussi.
Hein. Mais j'attendais qu'ils le disent.
Justement, d'où l'intérêt de cette
d'où l'alternative.
Parce qu'en fait, effectivement, depuis de plus de deux ans maintenant, nos organisations syndicales dans les conseils centraux de Lille 1 se retrouvent sur tous les fronts, quasiment, que ce soit la baisse de budget, les gels de poste, ou même l'expulsion de camps de Rome sur le campus. À ce niveau-là, on se retrouve quasiment tous d'accord. Et d'ailleurs, sur la dernière mandature, vous pouvez retrouver tous les comptes rendus. Là, je parle à nos auditeurs, bien entendu. Vous pouvez retrouver tous les comptes rendus des conseils centraux sur les sites respectifs de nos syndicats, sur le site du SNESUP ou sur le site de Sud Étudiants. C'est pour des comptes rendus un petit peu plus accessibles pour les étudiants, notamment.
Oui, donc pour rappel simplement dire que bah, effectivement, donc on élit d'abord les trois conseils, le CA, le CVU, l'ex-CVU et la commission recherche. La commission recherche et le CVU, ça forme maintenant le CAC. Le conseil académique, en fait. Et donc, on élit. Et c'est le CA, le conseil d'administration, qui, lui, va élire le président. Voilà, globalement. Et ces élections, on aura l'occasion d'y revenir, bien sûr. Le scrutin se déroule, donc. Alors, le mardi 22 mars 2016.
Et donc, dans un peu plus de deux mois maintenant. Donc, on aura le temps de les voir approcher et d'en reparler par la suite.
On aura l'occasion de reparler de ces élections. Peut-être même qu'on pourrait organiser un débat entre les différentes listes. Ça serait peut-être intéressant. On verra. On ne sait pas comment on va faire ça.
Parce qu'effectivement, plusieurs listes, même que ce soit au niveau des enseignants, des biatos ou des étudiants. Il y a déjà plusieurs listes qui sont pressenties puisqu'il y a eu un comité électoral consultatif qui s'est réuni il y a maintenant deux jours pour mettre en place les modalités de ces élections. Et on a vu certaines listes, comme j'ai dit tout à l'heure, placer leurs intérêts.
Oui, tout à fait. Donc voilà.
Mais on peut déjà dire que syndicalement, les personnels présenteront des listes.
Présenteront des listes et présenteront un candidat également à la présidence.
Et présenteront un candidat à la présidence.
Alors ça, c'est très intéressant.
Voilà, donc sachez-le.
Il va y avoir confrontation.
Donc il n'y aura pas. Ça sera pas un duel, mais ça sera une bataille à trois.
Et dans les prochaines semaines, je crois qu'on aura l'occasion d'expliquer l'intérêt de voter pour une liste syndicale par rapport à une liste juste sur des noms.
Oui, nous sommes en train d'élaborer des éléments programmatiques, donc nous aurons l'occasion aussi de discuter, de distribuer à tous les personnels et étudiants de cette université.
Exactement. Voilà. Yvan voulait parler également, je crois, de la mise en place du... Comment il s'appelle? Aide-moi Yvan, s'il te plaît.
À la réforme d'admission post-bac.
Voilà, l'admission post-bac. On a quelques minutes seulement pour en parler.
Oui, tout à fait.
C'est le serpent de mer.
Alors oui, très rapidement.
Et c'est tous les ans, et il y a une réforme tous les ans, en fait, non?
Oui, tous les ans, il y a quelques petits changements, puisque l'admission post-bac, la plupart des étudiants, la quasi-totalité, bien sûr, le savent, c'est le site sur lequel on s'inscrit à la fin de ses années lycée pour choisir sa filière universitaire juste après le bac. Et il y a quelques petites réformes qui ont lieu, qui nous plaisent un peu moyennement. Peut-être qu'Aurélien peut développer par rapport à ça.
Oui.
Alors, oui. Dans le,
tu l'as pris, tu l'as pris au dépourvu.
je pense pas qu'on en parle, mais il n'y a pas de problème. Oui, bah, notamment le fait que l'une des recommandations, c'est en fait sur admission post-bac, les élèves de terminale peuvent faire 24 vœux au total. Et à partir de cette année, il y a un vœu qui est en quelque sorte obligatoire, c'est de choisir une filière qui est une filière qui n'est pas à capacité limitée, une filière dans laquelle ils sont à peu près sûr d'être pris. Il y a une petite codification sur le site d'APB avec une petite vignette verte à côté de la filière ouverte. Et du coup, ça signifie quoi ? Ça signifie que on demande aux élèves de choisir de toute façon une filière par défaut au cas où ils ne pourraient plus être pris dans les autres. C'est-à-dire que le but, c'est pas de mettre plus de place dans toutes les filières pour que chacun puisse faire ce qu'il veut, mais c'est de pousser les étudiants à prendre une filière par défaut, y compris qui leur conviendrait moyennement ou pas du tout.
Non, mais cette année, en fait, on a depuis quelques années, en fait, on a un sérieux souci. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une augmentation du flux étudiant, en fait, du nombre d'étudiants qui pendant un certain nombre d'années, il a diminué, en fait. Il a diminué. Et puis maintenant, ça commence à remonter.
Pour rappel, cette année, par rapport à l'année précédente, on est à 65 000 étudiants en plus
en France,
au niveau national. Sur toute la France, 65 000 étudiants, c'est l'équivalent de trois universités comme Lille 1, Lille 2 et Lille 3.
Oui, mais avec ça s'est accompagné en fait, ça s'est accompagné par une réduction du nombre de postes, hein, parce que bon, un fonctionnaire sur deux là, de Sarkozy n'est pas un euphémisme, hein, donc ils ont vraiment appliqué, le fait que ils ont fait partir, ils n'ont pas renouvelé tous les postes des gens qui partaient à la retraite, et donc en termes d'encadrement, les étudiants sont beaucoup moins. Baisse du taux d'encadrement et augmentation des flux, bah ça conduit à quoi ? Bah ça conduit à des conditions d'études qui sont de plus en plus difficiles pour les étudiants.
Parce que pour rappel, avant, quand on choisissait.
Je crois qu'on va devoir se quitter sur ces bonnes paroles.
Antenne, effectivement.
Sur la précarité étudiante.
Oui, encore une fois, pas des paroles très joyeuses, mais voilà. Donc on vous retrouve la semaine prochaine, l'émission Derrière la vitrine. Et on vous laisse avec Classique sans complexe. Il n'y a pas d'erreur cette semaine. Et à bientôt, bonne semaine à tous, au revoir.
À jeudi prochain.
À la prochaine.
Au revoir.